nous allons maintenant aborder notre situation en Belgique. Et donc, on pourra peut-être voir ces relations, la continuité des relations avec les sociétés nationales. Et donc, j'ai le plaisir de vous introduire Clotilde Druel-Korn, qui est maître de conférence en histoire contemporaine depuis 2006. Et qui a enseigné dans une classe préparatoire aux grandes écoles, notamment en France, à Sceaux et à Versailles. Elle a soutenu en 2004 une thèse intitulée « Un laboratoire réformateur, le département du commerce en France et aux États-Unis, de la Grande Guerre aux années 20 ». Et ses travaux portent sur l'histoire des organisations patronales, nationales et internationales, et sur les aspects économiques de la Grande Guerre. Donc elle a présenté son manuscrit sous la direction du professeur Michel Magueras, une habilitation à diriger des recherches sur un manuscrit intitulé « Le ravitaillement discret de la France occupée » et puis « Le blocus, les neutres et les alliés ». Donc je pense que après la présentation aussi ce matin de la Croix-Rouge suisse, on va aborder maintenant le ravitaillement en France, en Europe. Voilà.
Donc, je continue dans cet après-midi. Et permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements à la Fondation de Gustave Mondor, au Musée international de la Croix-Rouge, à Madame Hanneman, à Monsieur Durand pour leur très stimulante invitation et leur généreux accueil. Donc la journée d'hier et les interventions de ce matin et celle à l'instant m'ont donné à penser en fait et à repenser également la manière dont j'allais présenter mon travail cet après-midi. Et en écoutant hier matin le président Peter Moore, je me suis dit que l'homme d'action dont j'allais vous parler aujourd'hui, Robert Hoover, et son organisation, la Commission for Relief in Belgium, avec ces deux éléments, Hoover avait été trop pressé. Il a, d'une certaine manière, voulu brûler trop vite, trop d'étapes, en voulant inscrire immédiatement son action humanitaire dans un processus de construction de la paix, voire d'un impérialisme de la paix, et on retrouve là un thème, le rôle des États-Unis, qui a souvent été mis en avant depuis. Et de fait, en mêlant ce conflit entre projet humanitaire et de construction de la paix, il a brouillé peu ou moins son message et son action aux yeux de nombreux contemporains, mais je crois aux yeux de nombreux historiens. Donc le titre ici, et j'ai repris dans ce titre deux vers que Hoover se permet d'ajouter à un poème très célèbre qui s'appelle Hunger, la faim, du poète britannique Laurence Binion, qui en 1914 a écrit un poème devenu très célèbre, À ceux qui sont tombés, For the Fallen, et qui est jusqu'à aujourd'hui récité chaque année, le jour du souvenir ou le 11 novembre, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada. Et donc dans ces deux vers, My legacy is to children of famine, stunted bodies and twisted minds, on voit tout de suite deux éléments qui vont être au cœur de son action humanitaire de 1914 jusqu'à 1964. Et 1964, parce que Herbert Hoover décède à ce moment-là, et ce n'est pas non plus par hasard que nous avons la même date avec Brandon, puisque Hoover est au cœur de nos travaux, mais pas tout à fait de la même, pas par la même face. Donc ici, c'est une instance mise sur la question de la faim et des enfants, et sur la manière dont la faim, elle transforme les corps, bien sûr, les jeunes corps, mais les âmes, et donc de sa relation avec un futur et avec les effets sur une paix à construire. Alors, si je vous montre la diapositive suivante, en fait, le titre n'était que les deux derniers vers, mais il rajoute autre chose, et autre chose aussi, donc il se veut pour une fois poète, et c'est rare chez Hoover, qui est plutôt quand même un homme d'action peu portée et à l'introspection et à ce type d'épanchement. Et donc, il ajoute à ce poème des éléments également qui vont cette fois-ci se retrouver au cœur de ses projets pour la paix et également de la position des États-Unis à l'égard de la paix et de la neutralité. Et donc ici, il évoque, lié à cette guerre et à la fin, la révolution, les tumultes, et ces tumultes qui vont continuer à alimenter des haines et des peurs et qui vont être à l'origine de nouvelles guerres. Et donc, son projet, cette fois-ci en tant que peacemaker, c'est de penser à la manière d'éviter de nouvelles guerres et donc à penser la paix et à offrir un projet de paix. Cet ajout au poème célèbre, il le fait dans un ouvrage qui paraît en 1959, An American Epic, et là aussi le titre est important, An American Epic, The Relief of Belgium and Northern France, donc 1914-1919, c'est le premier volume qui en compte plusieurs, puisqu'il va décliner les autres champs de son action, et donc cela paraît en 1959. En 1959, l'homme est âgé, mais il est toujours extrêmement actif et il sera actif jusqu'à sa dernière heure. Alors, donc, l'homme qui se permet d'ajouter ces lignes est un homme qui est peu connu, mais il est plutôt mal connu, et ainsi que la Commission for Relief in Belgium, peu connu du public. Alors, pas dans cette assistance, puisque Brandon est vraiment un grand spécialiste de Robert Hoover, mais je sais aussi que Sidney Potter a travaillé sur la CRV, et puis Irène connaît aussi le sujet. Mais bon, c'est quand même un homme et une action mal connue du grand public, associé à, surtout à ses échecs, à sa période, à sa présidence, à la dépression, au Hooverville, à sa farouche opposition au charismatique Franklin Delano Roosevelt. Pourtant, ce qui va le propulser à la tête en fait, de la présidence des États-Unis en 1928, à l'automne 28, c'est d'abord aussi, et c'est ce qu'il met aussi beaucoup en avant dans sa campagne, c'est son engagement et ses réalisations humanitaires dans la Grande Guerre. Donc voici l'homme, et donc lorsque la guerre débute, il a 40 ans, et c'est un homme particulièrement intéressant, c'est un homme de 16 heures, hein, c'est vraiment un settlement man, qui s'est enrichi. C'est un des rares Américains. Il est ingénieur géologue de formation. Il a fait toute sa première carrière hors des États-Unis, en Australie, en Chine. C'est un homme en Europe. Il a un bureau à Paris, un autre à Saint-Pétersbourg. C'est un homme à Londres, un homme d'action aussi. Et c'est un homme qui est très apprécié de ses pairs. Voilà, c'est un homme riche, et il est à Londres quand la guerre débute. Et donc, mon propos va se présenter sous quatre points que je voudrais faire entrer en résonance avec ce que nous avons vu. C'est une urgence humanitaire, c'est une question sur les secours contribuent-ils à prolonger les hostilités. La question de la neutralité, et puis ensuite c'est ce que l'on va faire, c'est ce qu'il va faire donc de l'aide alimentaire à l'heure de la paix, et puis on va monter en généralité avec la question donc de son projet pour la paix. Alors une urgence humanitaire, et il n'a aucun précédent dans l'action humanitaire, ça ne fait pas du tout partie de de ces projets, ni de ces précédents champs d'intervention. Et il y a une urgence, c'est celle des civils, et donc de civils occupés, et de civils occupés qui se trouvent dépourvus de ravitaillement. Voilà, donc alors pour que l'on comprenne bien cette situation, qui dans son caractère concret est extrêmement important, on rappellera la situation. Et alors ça c'est une carte de West Point qui n'est pas tout à fait juste, puisque West Point dit qu'en 1914, l'Italie n'est pas encore en guerre, mais là, c'est du côté de Londres. Alors, oui, c'est intéressant parce qu'on discerne bien l'entente, on discerne en rouge les empires centraux, et puis il y a ces verts, et ces verts, ce sont les neutres. Donc il y a une grande hypocrisie de la part des Français ou d'autres à dénoncer la neutralité suisse, par exemple, ou d'autres neutralités, parce que la neutralité, donc, non seulement elle est au cœur de la guerre, mais j'imagine en fait mal une guerre sans neutre. Et il joue un rôle absolument essentiel pour tous les belligérants et un rôle qui mériterait d'être beaucoup mieux étudié, présenté. Donc, pas du côté, donc voilà, c'est pas simplement à partir de la Suisse, c'est de manière générale, la neutralité est un élément absolument essentiel. Et je ne sais pas ce qu'en penserait le professeur Keller, mais je vois une guerre sans neutre me paraît difficilement envisageable, en tout cas, durerait sans doute plus longtemps. Et donc, dans ces pays neutres, qui se déclarent neutres, il y en a deux qui sont particulièrement importants. Bien sûr, il y a la Suisse, et pour notre propos, il y a les Pays-Bas. Et puis, il y en a d'autres, hein, et donc la Norvège, bien sûr, la Suède, le Danemark, l'Espagne, et ce qui a été dit ce matin, par exemple, sur les industries de guerre s'appliquerait également à la Suède, de la même manière. Donc vous avez cette situation, et moi, l'espace sur lequel, à partir duquel je vais penser l'action, c'est ces territoires qui ont été occupés à partir d'octobre 1914 par les Allemands. Donc ils les occupent, donc c'est toute la Belgique, et ce qu'on oublie trop souvent en France, c'est 10 départements ou complets ou partiels de la France du Nord et 2 millions d'habitants. Et qui, eux, se trouvent alors dans une situation différente de celle de la Belgique, dans la mesure où, ce sont les armées stationnent, ce qui n'est pas le cas, sauf ponctuellement, pour la Belgique. Donc c'est un type d'occupation très différent au quotidien pour les populations. Non. Et cet espace, il est complètement isolé. Il est isolé et il fait l'objet d'un enjeu qui est celui du ravitaillement, donc de la nourriture. Comment ravitailler cette population? Parce que ce qui est en œuvre et qui est absolument essentiel, c'est la question de la guerre économique et du blocus. Et ce blocus, il a une matérialité qui sont ces mines qui ont été larguées, lâchées, ces champs de mines, qui existent, à la fois qui ont été déposés et par les Allemands et par la Grande-Bretagne et la France. Donc vous les voyez, et ces champs de mines, eh bien, ils permettent de mettre en place un blocus commercial et économique extrêmement, qui va être de plus en plus fort, précis. Et vous voyez donc que ce blocus, il fait partie d'un dispositif de guerre économique mis en place par l'entente. Et ce dispositif, eh bien, de facto, il isole la Belgique et la France du Nord occupée. Les Allemands donc ne peuvent plus ou de moins en moins recevoir de la nourriture. De ce fait, eh bien, ils refusent de nourrir et de favoriser la, la nourriture et l'apport en ravitaillement des populations civiles. Donc c'est dans cette urgence-là, à partir d'octobre 1914, que Hoover est sollicité. Alors je ne rentre pas dans les détails qui sont très, très nombreux, il est sollicité et il accepte la tâche de commencer à ravitailler ou d'aider au ravitaillement par ses connaissances, par ses réseaux, par sa capacité d'ingénieur, par sa logistique, etc. Donc c'est une urgence qui s'inscrit dans aucune réflexion, dans aucun mandat. Mais bien entendu, il faudra qu'il ait l'accord des différents belligérants. Alors, dans le cadre donc, de ce blocus économique, il y a un blocus alimentaire. Là, les obligations sont mal ou non définies. Est-ce qu'un ennemi occupant doit se charger de nourrir une population occupée? Les dates se sont très floues. Oui, pour quelques jours, certainement pas pour plusieurs années. Donc, c'est sur cette durée que l'on... Alors, une question importante et une question... qui se pose en fait depuis longtemps, ces secours contribuent-ils à prolonger les hostilités? Donc c'est une question ancienne, et notamment dans le cadre d'un blocus alimentaire. Alors on peut être, et depuis donc on retrouve ça, ces éléments, notamment dans le cadre du siège de ville. Est-ce que c'est si répréhensible? En fait, non, et même Louis Renault n'est pas choqué par le blocus alimentaire, puisque le blocus alimentaire est perçu comme un moyen de hâter la fin de la guerre. Et cet argument-là, il existe, il est présenté, mais ce n'est pas celui qui sera dominant ni qui va l'emporter, parce que désormais, on a aussi des opinions publiques qui sont très sensibilisées à la situation. Et puis, on a également la force de conviction de Herbert Hoover et son. Et quelque chose qui l'anime, il veut absolument. Il dit voilà, il faut sauver ces populations. On pourra revenir sur les raisons de son engagement. Alors, cela dit, à l'époque, les différents acteurs ne se posent pas la question exactement de cette manière-là. Et dans les militaires, notamment, se demandent plutôt. Si nourrir les populations donc ne va pas plutôt entraver la mise en œuvre de leur guerre économique. C'est plutôt cela, et c'était un dispositif très important que celui de la guerre économique. Alors pour Londres et Paris, Londres et Paris sont d'abord très réticents. C'est notamment la position de l'amirauté, c'est celle de Churchill, c'est celle également de Lloyd George, et il faudra donc toute la force de conviction de Herbert Hoover et toute une panoplie d'arguments, notamment des arguments de type humanitaire, de type politique, donc sauver la démocratie, hein, c'est pour Food for Democracy, hein, c'est un de ces éléments. Et donc on ne peut pas, il serait incohérent que l'Angleterre est entrée en guerre, notamment dans le cadre de cette neutralité bafouée, aujourd'hui se refuse à favoriser l'arrivée de nourriture aux populations belges et françaises occupées. Du côté français, alors le généralissime Joffre, lui, il est plus confiant. Lui, il se dit... Moi, ça ne me gêne pas que l'on apporte de la nourriture aux occupés. C'est une entrave au blocus, certes, mais sur terre, nous l'emporterons rapidement. Donc, ce n'est pas un de ces soucis. C'est en revanche, alors, le souci. C'est pas tout à fait. Alors, je vais vous lire donc, le document. Il me semble être sur l'autre, qu'on a mis tout à l'heure. C'est Abel Ferry qui dit non, on ne peut pas accepter de faire une entrave à ce blocus alimentaire, puisque ensuite, si nous faisons, les Allemands vont réclamer la même chose pour leur population. Bon, alors ce que va. Donc vous voyez, la question ici qui va. La manière dont elle va être aborder, c'est plutôt est-ce que cela va nuire à notre guerre économique, en constituant donc une entrave au blocus. Donc la position de Weber, c'est vraiment sa force intime de conviction l'emporte. L'emporte et cela va le conduire à définir et à mettre en œuvre ce qu'il appelle une neutralité positive. Et c'est une neutralité positive personnelle et qui va aussi rencontrer la neutralité positive des États-Unis dans une définition de cette neutralité. Alors ce n'est pas aussi évident, même aux États-Unis, que son action, parce que c'est d'abord l'action d'un individu qui certes sera appuyé par le département d'État, par Wilson, mais ce ne sera pas aussi évident. C'est-à-dire qu'il est accusé par le sénateur Cabot Lodge ou d'autres de tomber sous le coup du Logan Act. Et le Logan Act, c'est sérieux, c'est-à-dire qu'un citoyen américain ne peut pas se mêler en temps de guerre, d'affaires qui pourraient contribuer à entraîner les États-Unis dans la guerre. Donc il y a donc c'est un citoyen indépendant, mais qui va de plus en plus donc il y a une sorte de concordance et de rapprochement avec une politique américaine et de neutralité positive. Et c'est là aussi où on retrouve l'intérêt pour le thème de la neutralité. Et les États-Unis, donc, alors, c'est une longue histoire bien sûr hein, que cette neutralité américaine, qui n'est pas synonyme de non-intervention, mais d'une autre manière d'intervenir, hein, et qui n'est pas non plus synonyme d'un isolationnisme. On pourrait en trouver alors une sorte de généalogie dans l'exceptionnalisme américain, leur définition également des droits humains, un leadership moral qui va conduire, le milieu de 1915 et puis début 17, à ce que la politique définie par Hoover, donc de favoriser de mettre en place cette Commission for Elephant Manager et d'approvisionner les populations civiles, rencontre celle du président Wilson. Donc c'est un. Alors dans le détail, hein, c'est aussi très. Ces approvisionnements, ils viennent de très loin. Ça implique le rôle de plus en plus important des États-Unis. Vous voyez ici donc les zones, les espaces d'approvisionnement, la montée en puissance effectivement des États-Unis dans l'approvisionnement. Alors de l'entente, des neutres bien sûr aussi en Europe, et puis l'approvisionnement donc de ces civils français et belges occupés. Ça signifie donc que Hoover a été capable de mettre en place une forme de diplomatie parallèle, utilisant à la fois les réseaux de la diplomatie classique, mais d'une manière secrète, discrète, etc. Ça signifie aussi qu'il met en œuvre donc une extraordinaire logistique, une extraordinaire levée de fonds, etc., pour faire transiter les cargos sur les océans et apporter donc ces secours alimentaires. Alors, ces secours alimentaires, on a donc beaucoup d'éléments, parce que Herbert Hoover est un archiviste. C'est vraiment un archiviste. Et donc, on a à peu près tous les éléments permettant de retracer très précisément cette histoire. Le bureau principal, il est à Londres. Et on voit ici, par exemple, pour 1917, les tables qui permettent de saisir le nombre de bateaux, les zones de provenance, ce que l'on apporte, etc. Et bien entendu, derrière, il y a des garanties qui ont été données, des garanties qui ont été négociées avec les Allemands, mais qui ne pouvaient pas être négociées, par exemple, directement entre l'entente et les empires centraux. Donc, c'est passé par l'intermédiaire de Hoover qui se retrouve être en mesure de signer des documents au nom de toutes ces parties, et de s'engager, dans une neutralité parfaite également de tous les mécanismes de répartition de l'alimentation. Et bien entendu que les Allemands ne profitent pas et n'utilisent pas et ne prélèvent pas. Alors, attention, c'est pas ici, ce qu'il s'agit, et ça a été bien défini également, c'est un élément intéressant, non pas de que l'on vive bien, mais que l'on survive. Et les Britanniques aussi, qui sont très soucieux de que l'on ne vive pas mieux en zone occupée, que dans les zones non occupées ou notamment en Allemagne où la population est dans une situation qui est de plus en plus difficile sur un plan alimentaire. Donc il n'y a aucun surplus, hein, on est dans les éléments de base de l'alimentation. Aussi l'entente, hein, Paris, Londres surveillent la réalisation, donc ils surveillent les objectifs et puis la réalisation de ces objectifs. Donc, il met en place une agence tout à fait extraordinaire qui n'aura jamais aucun statut et qui s'installe donc de facto dans le paysage. Ce succès conduisent Hoover à être appelé par le président Wilson en avril 1917, à devenir le food administrator aux États-Unis, donc à être en charge des modalités d'approvisionnement, à la fois d'approvisionnement intérieur et d'approvisionnement pour l'entente, et bien entendu de continuer, et il décide lui de continuer à présider la Commission for Relief in Belgium. Et c'est là qu'il y a une politisation qui s'accroît encore plus, c'est-à-dire que cette Commission for Relief in Belgium compte totalement une note totalement humanitaire, elle est de plus en plus insérée dans le cadre du dispositif de l'administration Wilson. Et c'est là que l'on voit apparaître une forme de dérive, c'est-à-dire que Hoover saisit bien aussi la puissance de l'outil qu'il a créé. Il a tendance à la transformer en une forme d'arme alimentaire à partir de novembre 1918. Le blocus alimentaire est terrible à l'égard des empires centraux, notamment de l'Allemagne, hein, et Hoover ne souhaite absolument pas qu'il continue. Ça y est, la guerre est gagnée, il ne souhaite pas. En revanche, les Alliés, eux, veulent continuer à avoir ce blocus. Et c'est là qu'il utilise très clairement l'arme alimentaire. Et notamment avec la poursuite du blocus alimentaire en Allemagne, et cela génère un goût très 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 amer pour toutes les parties, et qui fait que notamment pour la France, c'est un peu différent comme pour la Belgique, mais quand Hoover part de l'Europe, de Paris en 1919, il y a un ton, alors je vous lis une note qui est quasiment la même note pour Londres et pour Paris. Elle a été traduite et on l'a publiée dans les journaux. Donc on souligne la méfiance qui a présidé au premier mois du travail de Hoover et de sa présence en Europe. Il faut s'incliner et reconnaître l'efficacité de son action. Aucun Européen n'aurait pu faire de même, car il aurait été lié par des questions d'intérêt personnel. Aucun politicien n'aurait pu le faire, car il aurait dû satisfaire certains partis. Il fallait un homme qui, par sa nature et ses attaches, n'ait aucune de ses faiblesses. En même temps, le ton est bétasque à son égard. Bon. Et lui-même repart d'une certaine manière amère, même s'il sera toujours très fier de cette réalisation. Alors, cette expérience-là le conduit à continuer à penser cette fois-ci, de manière plus générale, la paix et les conditions d'une paix, durable, dans lequel il inclut, bien entendu, les aspects alimentaires. Et il publie en 1942 « The Problems of Lasting Peace » avec Hugh Gibson, qui était à la légation américaine à Bruxelles. Donc c'est un ouvrage qui est tout à fait intéressant, et il souligne la nécessité de ne pas attacher un traité d'une future organisation des Nations Unies à un traité de paix. Surtout, de bien détacher les deux, c'est-à-dire de ne pas refaire ce qui avait été fait à Versailles. En guise de conclusion, quelques éléments. Donc avec Hoover, c'est l'échec de la transformation de l'humanité en peacemaker. Et là, c'est effectivement deux volets qui sont différents et qu'il est très difficile d'articuler, peut-être encore plus quand on est américain. Il y a aussi des questions très contemporaines sur l'aide alimentaire, son contrôle, son impact, la durée des conflits, sur la possibilité de définir des corridors humanitaires, ce qu'il réussit à faire. Et sur un dernier point qui n'a pas été évoqué ou à peine jusqu'à présent, sur la forme et la prise en charge financière de l'aide. Je vous donne deux ici, vous avez donc une affiche du district de Charleville, donc en zone qui est française, et on voit ce qui est distribué à partir du ravitaillement de la Commission for Relief in Belgium. Et vous voyez aussi qu'il y a des prix, parce qu'en fait, on paye. Les bénéficiaires, sauf exception, doivent payer des sommes modiques qui, en fait, au final, dans des processus très complexes, ne seront pas véritablement payés par les individus, mais ils ont l'impression de payer. Et donc, une bonne partie de la population, notamment en France, n'a pas eu l'impression qu'il s'agissait d'une œuvre humanitaire. Mais elle a eu l'impression qu'il s'agissait d'une œuvre commerciale. Même chose pour l'État. Qui finance effectivement ces aides alimentaires dans le temps? Ben, qui finance? Ce sont les États. Ce sont les États, et en l'occurrence, c'est la Belgique, c'est la France. Alors la France a toujours voulu garder cela extrêmement discret. Bon, mais c'est la France. Et on veut représenter ses comptes. Alors bien sûr, cela sera rebasculé dans le cadre des réparations. N'empêche que ça va se retrouver dans les dettes de guerre. D'une autre manière, le gouvernement français, qui reste jusqu'à aujourd'hui, ces éléments ne sont jamais évoqués, parce que, là aussi, il n'a pas eu l'impression qu'il s'agissait d'une entreprise humanitaire, parce qu'il fallait payer, même si c'était du non-profit complètement, etc., même si c'était en dessous des prix du marché de Paris ou de Londres, mais... ils n'ont pas eu donc l'impression qu'il s'agissait véritablement d'une œuvre humanitaire. Et donc, c'est l'autre aspect, c'est l'impérialisme américain. Et Hoover l'a de plus en plus incarné. Voilà, je vous remercie de votre.